When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Aigleté. Nous vous proposons aujourd'hui une carte blanche consacrée à un documentaire qui sera diffusé ce soir à 23h05 sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Il s'appelle « Fumel après le silence ». C'est vous qui en êtes le réalisateur. Bonjour Fabrice Main.
Bonjour.
Fabrice, avec vous, nous nous intéressons au passé industriel de la région, à son avenir aussi d'une certaine manière, et nous en parlerons un peu plus tard. Votre documentaire s'intéresse à la fin du monde, ou plus précisément à la fin d'un monde, comme c'est dit d'ailleurs très rapidement, celui de l'usine de Fumel. Nous sommes dans le Lot-et-Garonne. D'abord, est-ce que vous pouvez nous la présenter, cette fameuse usine qui a été en fonction pendant plus de 170 ans?
Bah oui, c'est une usine qui a été créée au 19e siècle, une usine sidérurgique. Dans les années 60, il y avait des milliers d'ouvriers qui travaillaient. C'était assez atypique pour une région comme Lot-et-Garonne, qui est plutôt agricole, d'avoir une usine comme celle-là. Et puis, dès la première crise pétrolière, au début des années 70, elle a peu à peu décliné. À cause du coût des matières premières, à cause de la mondialisation qui fait que c'était beaucoup plus simple d'aller faire les mêmes produits ailleurs. Et peu à peu, cette usine a fait partie de la désindustrialisation qui est revenue dans le débat à l'occasion de la pandémie, où on s'est aperçu que peut-être on avait un peu trop désindustrialisé. En tout cas, cette usine, elle est emblématique de cette période économique historique de notre pays.
Pour quelle raison a-t-elle fermé en 2018? Il y a toute la raison historique que vous venez d'exposer, mais quel a été en quelque sorte le coup de grâce?
Le coup de grâce, je pense qu'il existait déjà depuis un petit moment, mais les dettes se sont accentuées, et puis je pense que le territoire, les élus, les habitants n'ont pas voulu acter de la mort de l'usine rapidement, et donc il y a eu des luttes sociales qui se sont enchaînées des années 80 jusqu'en 2018, et la communauté de communes a racheté le foncier à un moment pour sauver les murs, pour sauver l'activité. À la fin, il n'y avait plus qu'une quarantaine de travailleurs, et le coup de grâce, ça a été c'était une usine qui était un peu sous perfusion, qui était destinée à mourir, quoi. Donc il n'y a pas vraiment eu de coup de grâce, elle s'est arrêtée parce que les dettes devenaient intenables et économiquement c'était plus viable. Même les clients de l'usine, ils leur faisaient des fleurs, ils commandaient encore des pièces à l'usine alors qu'ils savaient très bien que c'était plus cher qu'ailleurs. Enfin voilà, elle était plus concurrentielle, et puis à un moment, le tribunal administratif a dit ok, c'est fini, on peut plus vous déposer le bilan, c'est plus tenable, quoi. Et donc, moi, c'est là que j'ai pu envisager de faire le film, précisément à ce moment-là.
Oui, vous le dites, hein, vous avez découvert l'usine 5 mois après sa fermeture en 2018. Ces luttes sociales que vous venez d'évoquer, elles ont trouvé un écho particulier avec un film qui est sorti en 2018, réalisé par Stéphane Brisé, avec Vincent Ladon, et qui s'appelle En guerre, qui a connu un beau succès populaire, du reste. On le voit, ça, c'est, j'imagine, particulier pour les habitants d'avoir vu, en quelque sorte, hein, parce que c'était évidemment pas exactement leur histoire, mais en tout cas, c'était l'essence de leur lutte qui était ainsi portée à l'écran.
Bah oui, moi j'ai rencontré beaucoup de gens à l'occasion du tournage de mon film et de l'enquête, et beaucoup avaient participé comme figurants au tournage, et leur sentiment était un peu ambivalent, c'est-à-dire que à la fois ils étaient contents qu'un film vienne dans leur usine, et d'un autre côté ils se sont dit ça va donner une caisse de résonance à notre lutte, alors qu'en fait Stéphane Brisé, de manière tout à fait honnête, a toujours dit: moi je cherche un décor pour l'histoire que j'ai écrite. Je ne vais pas directement parler de Fumel et de votre lutte. Mais bon, en tout cas, il y a quelque chose qui a résonné pour les habitants, les figurants, enfin, voilà, et qui étaient très fiers d'avoir participé au film et que leur usine soit montrée. Mais c'est vrai que c'était un an avant la fin. Bon, et après, le film de Brisé, il rend peut-être pas hommage à l'usine de Fumel précisément, mais en tout cas, C'est toutes les usines symboliquement dans ce film à qui il rend hommage et aux luttes qui les habitent.
Fabrice, votre documentaire laisse transparaître un sentiment que l'on retrouve assez fréquemment, hein, d'ailleurs, chez ceux qui ont travaillé dans de grands sites industriels. Il y a de la fierté d'y avoir joué un rôle, mais il y a aussi de la honte, celle d'avoir été d'une certaine manière les fossoyeurs de l'usine, et bien qu'ils n'y soient pour rien, bien évidemment. Je reprends les mots de l'un de vos témoins, très ému au moment de parler de cela. Fumel, c'est encore une plaie à vif.
Je me suis rendu compte en tournant le film de manière totalement intuitive et sensible que c'était très proche d'une histoire de deuil, en fait. Comme si... quelqu'un était malade, en l'occurrence là c'est l'usine, et qu'on on veut pas accepter sa mort prochaine, donc on lutte, on est en colère, il y a des sentiments mitigés, puis un jour elle finit vraiment par mourir, et là on n'a pas d'autre choix que d'accepter, de passer à autre chose. Mais passer à autre chose, ça veut pas dire oublier, ça veut dire se souvenir des bons moments, et puis faire acte de mémoire pour la suite, parce que de toute façon l'histoire et la vie continuent. Donc ces ouvriers, ils étaient dans tous ces sentiments, c'est-à-dire après la colère des luttes, c'est la fierté qui a pris le dessus, la fierté d'avoir participé à cette histoire. Et moi, j'ai eu aucun problème à rencontrer des personnages pour parler et raconter l'histoire. Et puis, il n'était plus question de revenir sur qu'est-ce qu'on aurait pu faire, qu'est-ce qui aurait dû être fait. Enfin, tout ça, c'était derrière. Donc, c'est pour ça que je dis que j'ai pu commencer le film à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y avait ce travail de deuil en quelque sorte, mais qui est un travail positif qui s'enclenchait, quoi. Et le film a accompagné un peu ce premier mouvement.
Il y a une expression très jolie aussi, hein, dans votre documentaire, de mon point de vue. L'un des anciens ouvriers dit que l'usine permettait de souder, mais de souder également les femmes et les hommes. C'était une époque où il n'y avait pas de chômage sur le territoire, où l'usine fournissait les maisons, construisait des équipements communaux presque à tour de bras. C'est cette époque dorée aussi que pleurent les femmes et les hommes de Fumel.
Oui, c'est-à-dire que on peut vite, regretter le monde d'avant. Mais le monde d'avant, c'était un autre monde. L'usine de Fumel, elle a été pensée suivant les préceptes d'une forme de patriarcat industriel de la fin du 19e, du début du 20e siècle, où certains chefs d'industrie disaient une usine, c'est pas que du travail, c'est aussi des liens sociaux. Donc on fait des écoles, on fait des équipements sportifs, on finance les bonnes œuvres, on finance les femmes au foyer qui restent au foyer, on leur apprend la cuisine, la couture. Enfin bon, voilà, c'était un peu une vision ancienne. Donc c'est sûr que ça, on peut le regretter. En même temps, c'est une façon de penser l'outil industriel qui est un peu d'une autre époque. Après, en l'occurrence, à Fumel, ça a créé tout un tissu de vie. Et en l'occurrence, il y a un stade, une piscine, des équipements sportifs, il y avait des clubs, enfin, rugby, aviron, enfin, tout ça. Et c'est sûr qu'il y avait un lien social qui n'existait pas. Bon, après, moi, j'ai surtout une lecture économique, c'est-à-dire que avant toute chose, il y avait du boulot, et donc tous les gens qui travaillaient à l'usine, ils avaient avant tout du travail, et ils avaient cette valeur commune du travail. Donc c'est ça qui les a soudés. Et comme le dit un des personnages, qu'on soit polonais, espagnol, portugais, d'Afrique du Nord, on s'en foutait. On était tous avant tout sous la même enseigne, quoi. La forme de liens sociaux que proposait l'usine au sens large, à la fois à travers les équipements sportifs, mais aussi à travers la valeur du travail et toutes les activités qui pouvaient se dérouler autour de l'usine, les anciens ouvriers le regrettent, oui, ça c'est sûr.
Aujourd'hui à Fumel, Fabrice, les responsables politiques et culturels notamment se demandent que faire avec cette usine. Faut-il la démonter partiellement? Comment couvrir au grand public? Au cœur de tout cela, il y a surtout la volonté de transmettre la mémoire. On sent que cela, c'est un thème vraiment primordial sur place.
Oui, c'est vrai. Et moi, de prime abord, ce qui m'intéressait et ce qui m'intéresse comme cinéaste, d'une manière générale, c'est de filmer des gens au travail. J'aime beaucoup... Je trouve que ça raconte plein de choses de filmer le travail. Et donc là, il y avait à la fois le travail passé, qui était passionnant, mais aussi ce travail au présent d'un autre collectif, qui était plutôt celui des élus et puis des citoyens qui avaient quand même aussi leur mot à dire. Et donc, il y avait pour ces élus, pour la communauté de communes de Fumel qui est propriétaire du lieu, il y avait à la fois des enjeux économique, c'est-à-dire que c'est une petite collectivité qu'elle ne peut pas, elle n'a pas des énormes moyens, donc il y avait quand même des, il fallait bien penser la réhabilitation et l'éventuelle destruction des lieux. Et puis il y a aussi une responsabilité symbolique et mémorielle du territoire, c'est-à-dire qu'on peut pas tirer un trait sur plus d'un siècle et demi d'histoire qui a complètement irrigué de vie ce territoire.
Oui, parce que Fumel, c'est aujourd'hui un peu moins de 5000 habitants, hein. On parle effectivement d'une ville de petite taille. Il y a une grosse ambition touristique pour ce site.
Oui, parce que la région, il se trouve que Fumel, elle est à la convergence de trois régions et de trois territoires. Et plus au nord, il y a Sarlat, il y a le Lot, il y a la Dordogne pas loin. Enfin, il y a pas mal de touristes, mais il faut les amener vers Fumel. Et donc... les urbanistes, les architectes qui ont pu travailler sur le projet disent que c'est une chance et que ce passé industriel, il faut le valoriser. Mais voilà, c'est comme l'audiovisuel. Il y a toujours du désir, mais qui doit être mis en regard d'une économie. Donc il y a beaucoup de désirs, beaucoup de rêves, et notamment de connecter le territoire avec son passé au bénéfice d'un tourisme un petit peu intelligent, un petit peu éclairé, qui vienne prendre part à cette histoire, mais pour ça, il faut aussi, il faut déjà détruire en partie l'usine, et puis il faut dépolluer le site, et ça, c'est très compliqué pour la communauté de communes.
Fabrice, on va en venir à quelques questions un peu plus sur la fabrication de ce documentaire lui-même. Tout d'abord, pour quelles raisons avez-vous souhaité le réaliser ?
J'ai souhaité réaliser le film parce que je suis sensible au travail collectif. Et l'amorce de ce film a été la rencontre avec Jean-François Karpinski, qui est chargé de programme pour France 3 Nouvelle-Aquitaine, et qui, dès juin 2018, nous a trouvé avec mon associé, puisqu'on a une société de production à Bordeaux qui s'appelle Dublin Film, et nous a dit, mais c'est maintenant qu'il faut faire un film sur cette usine. Et moi, j'ai tout de suite dit, mais moi, ça m'intéresse d'abord parce que, en tant que professionnel de l'image, je savais que un lieu comme celui-là, c'est un peu un cadeau pour une caméra, c'est-à-dire qu'il y a un aspect plastique qui est passionnant. Et puis aussi parce que j'aime beaucoup filmer des gens qui parlent sensiblement et intelligemment d'un geste professionnel. Ça, c'était les deux choses qui m'ont accroché dès le début en tant que cinéaste. Some said he was a rambler, some said he was a rake. Some said he was a gambler, some said he was a fake. But I knew him like no one else, a gentleman was he. His days belonged to himself, his nights belonged to me, belonged to me. And that talking in the town square, in the taverns of the shops, I hear them talking everywhere, that talking never stops. But all their words of wisdom won't make you go away. The day they closed the factory down, I had nothing left to say.
Pour vous, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Quel est l'enseignement principal que l'on peut en tirer d'une certaine manière?
C'est un peu, le film, il s'est mis un peu à résonner avec le présent. Comme je le disais précédemment avec la crise qu'on vient de traverser, la crise sanitaire, c'est que d'un seul coup, Fumel apparaît comme d'autres histoires, mais qu'on a plutôt l'habitude de voir dans le nord de la France, le long du Rhin. Mais des histoires d'usines, de gâchis en fait. Ce qui ressort avant tout, et ce que tout le monde m'a dit, c'est un gâchis, c'est-à-dire qu'il y avait un outil industriel, il y avait des savoir-faire extrêmement précieux, et moi j'assiste peu à peu à la disparition de concrète et tangible des hommes qui portent cette mémoire, et je trouve ça terrible. Pendant le tournage, je me disais, mais jamais on ne retrouvera le savoir-faire du monsieur qui s'occupe du four et qui sait exactement comment faire une fusion en métal et quel... quels métaux associer pour créer tel type de particularité à un métal. D'autres qui avaient vraiment le geste dans leurs mains pour tourner, fraiser, pour inventer, exécuter des pièces en métal. Et on ne peut que regretter la disparition de tous ces savoir-faire. Donc, eux-mêmes le disent, c'est un immense gâchis. Et puis voilà, ça résonne aujourd'hui parce que il y a une perte des savoir-faire, certes, et puis il y a aussi une réflexion sur mais pourquoi est-ce qu'on a désindustrialisé autant ? On sait très bien que ça débouche sur du chômage, sur un héritage qui aujourd'hui qu'on remet en question, c'est-à-dire on a peut-être trop délocalisé, trop désindustrialisé, ça a forcé le chômage, ça nous a mis dans un autre état de société, on peut dire en quelque sorte. Mais il n'est pas trop tard, on l'entend déjà qu'on peut réindustrialiser certaines parties, qu'on peut faire la transition énergétique, enfin il y a plein de choses à accomplir, mais en tout cas, moi ce que je retire d'avoir travaillé sur cette usine, c'est qu'elle est emblématique d'une page de l'histoire de notre pays, que ce soit économique, politique, sociale, et que c'est un fil continu, c'est-à-dire que c'est une histoire qui continue de s'écrire, à la fois pour les habitants, et on vient d'en parler à travers ce qu'ils vont faire du lieu, mais aussi à travers la réflexion que ça génère, quoi. C'est-à-dire que quand on a eu un tel outil avec autant de travailleurs, c'est stupéfiant de voir qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et j'ai essayé de le montrer dans le film, mais Fumel, c'est, par rapport aux images d'archives des années 60, c'est terrible de voir le vide qui s'est installé, quoi. Donc voilà.
Une dernière question, Fabrice. Il y a un propos très politique dans votre documentaire. Tout à l'heure, vous avez utilisé d'ailleurs le terme de patriarcat industriel. Ce propos, il est en sous-texte, et puis il est plus affirmé à la fin de votre documentaire. C'était impossible pour vous d'imaginer ce travail sans ce propos politique ?
Après, c'est ma personnalité à moi. Je me dis que ça vaut la peine de faire un film si j'essaye un petit peu de générer une réflexion, une amorce de pensée ou d'échange. Donc oui, pour moi, c'était important d'oser tirer un peu le film vers des aspects politiques. Et en même temps, entre les lignes, tout le monde en parle tout le temps, que ce soit les anciens ouvriers, que ce soit les hommes politiques, et qui sont très sincères, c'est-à-dire que quel que soit leur bord, les élus locaux, ils sont sincèrement, ils se battent sincèrement pour faire avec leurs moyens leurs concitoyens et le territoire. Donc si ça c'est pas politique, en fait voilà, je c'est pas la peine, quoi, de le nier. Donc moi, je l'ai entendu et après, j'ai osé donner mon point de vue, en fait, présent dans le film.
Merci beaucoup, Fabrice Main, d'être venu au micro de Podcasting. Votre documentaire s'appelle Fumel après le silence. Il sera diffusé ce soir sur France 3 Nouvelle-Aquitaine à 23h05 et il sera disponible un mois sur le site de la chaîne. C'est la fin de cet épisode de Podcasting. Rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Juliette Brosseau, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Garaïco-Echea, Mathilde Leuil et Marion Ruot, iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Taïeb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.